Nous sommes le vendredi 20 octobre 2017, moi c'est Bruno, comment allez-vous? C'est bientôt le week-end et ça c'est quand même ultra cool. Allez, c'est parti pour votre fixe d'infos JV de la journée. Bienvenue dans votre revue de presse JV quotidienne. Ma mission est de vous donner toutes les news essentielles qui ont secoué le monde du jeu vidéo hier et même cette nuit. Nul besoin de se ruiner la santé à scroller des kilomètres de pages web, je suis là pour vous éviter cette peine. Allez, let's go comme disent nos potes à Merloc. Allez, on va reparler de Resident Evil aujourd'hui via la Resident Evil Revelation Collection qui va sortir le mois prochain sur Nintendo Switch et l'occasion pour moi de citer vraiment un site que j'affectionne particulièrement qui s'appelle biohazardfrance.net, hein, donc vous tapez biohazardfrance.net tout court et vous y arrivez directement. Ce site qui est à mes yeux la référence vraiment française de tout ce qui tourne autour de l'univers de Resident Evil et je serais même tenté de dire la référence internationale, tout du moins une des références internationales, tant ce site est de grande qualité et sa réputation de toute façon a depuis très longtemps dépassé nos frontières. Bref, et c'est le vétéran et Big Boss Hunk qui nous parle donc de ce diptyque Revelation qui se retrouve compilé sur Nintendo Switch. Et pourquoi je vous en parle? Parce que Capcom a prévu des bonus très affriolants, surtout si on est fan de la saga comme moi et d'autres licences fortes de Capcom, dont Makaimura, vous savez, Ghost and Goblin. Je vous lis l'article, vous allez mieux comprendre. Donc, Hunk nous dit « Capcom dévoile aujourd'hui deux mini-jeux rétro qui seront jouables dans cette édition. » Tout d'abord, Ghost Ship Panic, un shooting vertical bête et méchant. C'est sympatoche, vous verrez la vidéo. Et moi, c'est surtout le deuxième bonus, en fait, qui m'intéresse particulièrement. Hunk nous en parle. Donc, le second jeu est un hommage à Ghost and Goblins, dans lequel vous incarnez Barry Burton contre les zombies dans le cimetière et des boss de fin de niveau. Ce dernier titre sera jouable via un secret caché dans le Red Mode, l'équivalent du mode commando. Jouer à ces mini-jeux rétro vous permettra d'accumuler de l'argent à dépenser dans le Red Mode. Alors, je vous invite vraiment d'aller rapidement sur YouTube, ou mieux sur biohazardfrance.net, pour voir les dites vidéos. Et alors, je dois dire que la réinterprétation de Ghost and Goblin version Barry Burton, c'est un bonheur à regarder. C'est moche, très moche ce que tu fais là, Capcom, parce que là, tu frappes vraiment en plein cœur le fan que je suis, autant de Resident Evil que de la saga Makaimura. C'est vraiment, vraiment vilain ce que tu fais. On va rester sur Switch parce que la mise à jour 4.0.0 est à présent disponible. La principale nouveauté, c'est qu'on peut désormais faire une capture de 30 secondes, une capture vidéo, c'est-à-dire qu'en maintenant enfoncé le bouton de capture un certain temps, un petit son se fera entendre, et donc vous aurez sauvegardé les 30 dernières secondes de jeu. Alors 30 secondes, c'est peut-être pas énorme quand on a l'habitude de faire ça, personnellement moi sur PlayStation 4, mais c'est toujours mieux que rien, c'est toujours sympa, puisqu'après on peut partager sa petite vidéo sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter, mais apparemment YouTube, ce n'est pas possible pour l'instant. Faut savoir que cette possibilité n'est disponible que sur Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS et Splatoon 2. Donc ça reste très limité. Parmi les autres nouveautés de cette mise à jour, elle permet le transfert de données de sauvegarde et même de compte utilisateur, bien évidemment associé à son compte Nintendo, vers une autre console qui se situerait à proximité. Donc là, il faut aller dans paramètres, puis utilisateur. On peut également noter une fonction de précommande hein, qui a fait son apparition sur le Nintendo eShop. Autre fonction également qui vient de débouler sur la console de Nintendo, c'est qu'il est maintenant tout à fait possible de faire une mise à jour locale d'un logiciel en utilisant le jeu d'une autre console. Donc ça, c'est très finaux, parce que imaginez que vous voulez jouer à Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe par exemple, donc un jeu multijoueur, avec des amis, et que l'un de ses amis qui n'a pas de connexion internet et qui n'a pas mis à jour son jeu, pourra effectuer cette mise à jour carrément dans le logiciel de sa console via votre cartouche. Donc ça, c'est vraiment une très bonne idée. Donc voilà, grosso modo, pour cette mise à jour assez sympathique, somme toute. Alors effectivement, comme je le disais, 30 secondes de vidéo, c'est pas énorme, mais et il faut aussi prendre en compte le faible stockage de la Switch, ceci expliquant cela. Pour le reste, toutes ces petites options sont quand même assez agréables et je pense que les possesseurs de la Switch les accueilleront à bras ouverts. Et les possesseurs de la Switch, justement, ne sont pas les derniers à faire parler la carte bleue, car figurez-vous qu'aux États-Unis, la Switch a été la machine la plus vendue au mois de septembre. Et oui, c'est Nintendo qui s'est fendu d'un communiqué de presse pour annoncer cette bonne nouvelle, et ce même avant que les chiffres NPD nous tombent bien officiellement dans les mains. Donc, numéro 1 au mois de septembre, la Switch caracole maintenant à 2 millions d'exemplaires sur le territoire américain. Et il faut savoir aussi que du côté des jeux, la petite dernière de Nintendo a réussi à placer 3 titres dans le top 20 ricain, avec Mario plus The Lapin Crétin Kingdom Battle en numéro 7, Zelda Breath of the Wild qui est classé 10e et Mario Kart 8 Deluxe classé 11e. C'est assez impressionnant, sachant la fin d'année qui s'annonce pour la console, avec notamment Super Mario Odyssey qui est vraiment extrêmement attendu et apparemment à juste titre. Fire Emblem Warriors, on a aussi Xenoblade Chronicles 2, n'oublions pas les portages de Skyrim et Doom, bref, à mon avis, au pied de l'oncle Sam, la Switch va faire un ravage pour les fêtes de fin d'année. C'est à travers le site ROM Game que tient Achille Micral, je vous en avais parlé d'ailleurs dans l'une des premières éditions de la revue de presse JV, ROM Game, hein, romgame.fr, un site traitant de rétro, ma foi, de qualité. Et donc ROM Game a annoncé la sortie d'un nouveau magazine papier rétro, se nommant Player Spirit. Alors, plus précisément, c'est un projet Ulule, c'est-à-dire qu'on demande une participation pécuniaire, n'est-ce pas ? Pour que le projet se fasse, alors Ulule, hein, vous connaissez, hein, je vais pas vous représenter le principe, mais enfin c'est du crowdfunding, hein, bien évidemment. Alors, on nous dit que ce magazine 100% vintage, 100% micro, 100% console, et que ça fait 300%, et alors, le slogan est sympa, va regrouper des plumes quand même assez mythiques du milieu, dont un HL, JM Destroy, qui est à la tête du projet, me semble-t-il, car ce sera sous la bannière de Geeksline, sa maison d'édition, Matt Murdock, The Killer, que les lecteurs de l'ancien Console Plus se souviennent très certainement. On a aussi Alexis Talon, Mathieu Manan, bref, une belle équipe. Et ce cher Achille Micral, donc qui tient le site ROM Game, écrira également dans ce magazine. Il aura même droit à son petit avatar personnalisé et on le félicite pour ça. Le rédacteur chef, ce sera Mathieu Manan, qui nous dit « Même si certains noms vous seront familiers, car en plus de JM Destroy, vous retrouverez régulièrement la plume d'un HL, de Matt Murdock, dans nos colonnes. Les rubriques seront nombreuses et variés, dossiers, interviews, découvertes, de jeux, anecdotes et plein de surprises. Et The Killer va enfin renaître de ses cendres sous la plume du talentueux Alexis Talon, qui illustrera également les unes. » Alors The Killer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était il y a très longtemps dans Console Plus, c'était une rubrique où ce personnage fictif désinguait les jeux pourris du mois. Donc vous pouvez soutenir ce projet et en voir tous les détails sur le Ulule, la page Ulule du projet. Donc vous allez sur ulule.com, hein, vous tapez Player Spirit et vous le trouverez au moment où j'enregistre cette émission. Le Ulule est rempli à 36%, c'est-à-dire à hauteur de 5 532 € sur un objectif de 15 000 €. Donc ça c'est quand même chouette, surtout qu'il reste 29 jours, donc à mon avis le projet a toutes les chances de se faire. Donc on leur souhaite bonne chance, j'ai hâte de lire ce magazine, ça c'est clair et net, et on espère que ce Ulule se soldera par un succès, mais il en prend le chemin, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Qu'on aime ou pas les simulations automobiles, la sortie de Gran Turismo Sport est quand même un événement, ne serait-ce que par rapport à l'historique de la série. Et donc l'épisode Sport est arrivé, et surtout, les critiques commencent à tomber par dizaines. D'ailleurs, je rappelle que le jeu est sorti sur PlayStation 4, hein, ça j'avais oublié de le préciser, mais enfin bon, ça coule de source, mais dans le doute, je le précise. Déjà, pour parler du point français, ce qui est assez étonnant, c'est que jeuxvideo.com, qui a la réputation de noter en général assez large, n'a mis qu'un petit 14 sur 20, hein, la critique a été signée Anagund, voilà, et donc grosso merdo, le jeu est très agréable, très beau, plein de bonnes qualités, mais avec un manque de profondeur assez conséquent, car il faut savoir que Gran Turismo Sport mise surtout sur le jeu en ligne. Alors c'est un peu la marotte du moment, moi ce qui me désole parce que je suis plus joueur solo, mais comme je ne suis pas un fondu absolu de simulation automobile, ça m'empêchera pas de dormir, ne vous inquiétez pas, mais voilà. Il faut savoir que Gran Turismo Sport est surtout axé sur l'expérience multijoueur, l'expérience en ligne. Et là bizarrement, GameCult n'a pas été si sévère que ça, puisque Gran Turismo Sport écope d'un 7 sur 10 sur GameCult. Alors vous allez me dire 7 sur 10, ça fait 14 sur 20. Sauf que pour GameCult, non. Un 7 sur 10 chez GameCult, en général, ailleurs, vous trouvez des notes comme 18 ou 19. Quoi. Voilà, GameCult a la réputation qui est tout à fait avérée de noter très durement, parfois même trop à mon goût. Mais on leur pardonne, voilà, vu la grande qualité des articles qu'on peut lire sur ce site. Bref, tout ça pour vous dire que la critique sur GameCult signée Amaebi fait état vraiment d'un superbe épisode. Il nous dit notamment « Tourner corps et âme vers le online et le développement d'une communauté de pilotes animés par la même passion de la course et de l'automobile, GT Sport s'écarte sensiblement de la formule des grands tourismes classiques et risque d'en dérouter beaucoup. » Il nous dit que cette nouvelle orientation multijoueur est tellement bien assumée, conçue, peaufinée, séduisante et addictive, et rien que ça, que Polyphony Digital retrouve pour la première fois depuis des années un vrai statut de précurseur. Alors voilà qui fera plaisir aux fans de la saga qui s'est effectivement un petit peu perdu ces dernières années. Il nous dit, pour conclure, que GT Sport réussit le principal, proposer un bel écrin pour des compétitions enivrantes à plusieurs. Il n'y a plus qu'à espérer que le studio et Sony seront capables de soutenir et développer le titre à terme, sans faire trop appel au porte-monnaie de ses futurs fans. Et j'aimerais vous parler un petit peu de presse internationale. Globalement, on peut dire que le jeu de Polyphony Digital et Sony est accueilli vraiment avec énormément de bienveillance, vu que Gaming Trend lui a mis 10 sur 10, Power Up 9,5 sur 10, Games Reactor Danemark 9 sur 10, je sais pas si vous voyez, PS Life, qui est un site danois, 8,5 sur 10, 10, US Gamer 4 sur 5, enfin vraiment les notes, Games Radar 4 sur 5, Hardcore Gamer 4 sur 5, ça n'en finit pas, PlayStation Universe 7,5 sur 10, même en Espagne les notes sont bonnes, par exemple sur Hobby Consolas, bon, vous excuserez mon accent espagnol, le jeu se tape un 8,4 sur 10, bref, les notes sont en général très très bonnes et on peut dire sans trop exagérer, que la série est revenue au top. Alors, cette mise en avant des contenus online à chaque fois, c'est quelque chose qui me désole, parce que je sais qu'il y a certains jeux qui m'auraient grandement intéressé si le contenu offline aurait été un peu plus garni. Je pense par exemple au premier Star Wars Battlefront, par exemple. Il me semblait pourtant que ces derniers temps, ces éditeurs avaient mis, non pas la pédale douce là-dessus, mais au moins prenaient en compte vraiment les désirs des joueurs solo. Donc là, c'est dommage. Est-ce que ce Gran Turismo Sport vous intéresse? Car je rappelle qu'il est sorti là, maintenant. L'avez-vous essayé? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que ça ne vous dérange pas que le jeu mette vraiment l'accent sur le contenu multi? Dites-moi tout ça. Et si il y a beaucoup de commentaires de votre part, comptez sur moi pour en faire état lors de la prochaine émission. J'aimerais à présent vous parler d'une belle ville. Une belle ville située dans le pays de la Loire, dans le merveilleux département de la Mayenne. J'aimerais vous parler d'Évron. Évron, c'est 7127 habitants heureux d'habiter à Évron. Évron, quatrième ville de la Mayenne. Évron, qui se situe à 33 km à l'est de Laval et à 54 km à l'ouest du Mans. Évron, où un premier monastère fut construit au 7e siècle, puis détruit par les Normands. J'aimerais aussi vous parler de l'abbaye rétablie en 1981. J'aimerais vous parler de Guillaume le Métayer dit Ranchebeau, chef chouan de la Mayenne, le beau Guillaume qui s'est élevé contre l'arrêté pour l'éloignement des prêtres. J'aimerais tant vous dire sur Évron. Alors pourquoi je m'aide d'une fiche Wikipédia pour vous parler d'Évron? Eh bien c'est parce que j'ai lu dans westfrance.fr une info qui m'a bien fait plaisir, car il faut savoir que Évron va accueillir sa toute première salle d'arcade. Oui, messieurs, dames, sa toute première salle d'arcade. L'article sur West France nous dit « Réalité virtuelle, console, arcade ». À Évron, 300 m² seront consacrés aux jeux vidéo. Le tout sera installé dans le centre-ville d'Évron à des tarifs volontairement abordables. Et donc, il n'y aura pas que des bornes d'arcade. Oui, j'étais un peu vite en besogne. Parce que l'article nous dit 4 bornes d'arcade, 10 consoles rétro gaming, 4 casques de réalité virtuelle, une salle de lecture avec plus de 1000 mangas évolutifs à disposition, une salle de jeux de société, 2 jeux de plateau, un espace-vente. Voilà ce que va proposer Évron Game Center. Ce sera la première salle de jeu aussi complète dans la ville. Elle va ouvrir au 3, place de la Basilique, dans l'ex-magasin de vêtements hommes. N'hésitez pas à aller sur westfrance.fr pour voir cet article qui fait chaud au cœur quand on aime le jeu vidéo. Alors visiblement pour les tarifs, ce sera 6 euros les 20 minutes, hein. 1 euro les 3 parties, les clients pourront profiter des bandes d'arcade ou les consoles rétro gaming prévues pour séduire tous les âges. 6 euros les 20 minutes, 15 euros de l'heure, possibilité de jouer à 3. Les jeux de la réalité virtuelle emmèneront les clients dans d'autres univers. Jeux de combat, attaque de requins, ascension de l'Himalaya. Quand on console rétro gaming prévue pour séduire tous les âges, on pourra y jouer pendant 1 heure pour 2 euros. Même tarif pour accéder aux salles de lecture de jeux. Actuellement en travaux, la première salle de jeux de la ville devrait ouvrir fin octobre. Eh ben, je ne peux que saluer cette initiative et je vous invite vivement à surveiller l'ouverture de cette salle de jeux. Voilà, n'hésitez pas, même vous qui m'écoutez, si vous avez une petite boutique de passionnés, une petite salle de jeux, quelque chose, une initiative, un petit salon que vous voulez ouvrir dans votre quartier, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook, sur Twitter, etc. pour que je puisse relayer l'info. N'hésitez pas. C'est ainsi que s'achève cette semaine de Revue de Presse JV. Une fin de semaine pour le moins particulière, je dois bien vous l'avouer, car vous n'êtes pas sans ignorer que j'ai lancé une page Tipeee de l'émission dimanche dernier. Et je vais donc devoir faire deux types d'au revoir. Alors c'est pas évident, mais bon, à un moment donné, il faut se lancer. Je donne donc rendez-vous aux tipeurs, ceux qui ont donné 5€ ou plus, demain matin pour l'édition spéciale du samedi. C'est ma façon de vous remercier pour votre généreuse contribution. Vous recevrez un petit mail vers 6h30 du matin avec le lien vers le fichier MP3 à écouter en streaming ou à télécharger pour le mettre dans vos appareils au choix. Je rappelle à tout hasard que les news traitées dans cet épisode du samedi seront totalement fraîches. Vous ne les avez pas entendues aujourd'hui et vous ne les entendrez pas dans l'édition de lundi. Et donc pour tous les autres, vous retrouverez votre podcast préféré dès lundi matin, peu avant 7h, comme d'habitude. Elle est pas belle la vie. Alors je rappelle qu'on peut écouter l'émission H24, 7 jours sur 7 sur iTunes, Podcloud, sur YouTube, via la chaîne chez Bruno, c'est HZ_Bruno. Venez me parler car j'aime discuter sur Twitter, @revuedepressejv, tout collé, sur la page Facebook, la revue de presse JV, et sur mon compte Twitter perso, chez Bruno, CHZ_Bruno, toi-même tu sais. N'hésitez pas à partager un maximum l'émission, à en parler autour de vous, c'est très important, à me mettre plein de petites belles étoiles sur iTunes, ça aussi c'est primordial pour avoir une certaine visibilité. Il y a le blog aussi qui centralise tous les liens que je viens de vous dire comme ça un petit peu énergiquement, parce que c'est le matin, j'ai bu beaucoup de café, vous voyez. C'est la revue de presse jv.wordpress.com et donc vous avez la possibilité de m'aider via la page Tipeee, m'aider à réaliser cette mission dans de meilleures conditions. Je vous explique tout sur cette page, tipeee.com/la revue de presse jv. Il me reste donc à vous souhaiter un bon week-end et donc de vous dire, alors c'est là que c'est pas facile, à demain. Et aussi à lundi. Voilà, donc c'est un peu le bordel, mais on va s'y faire, vous inquiétez pas. Allez, portez-vous bien. Bye bye.